Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Eruvin, page 100, Daf Kouf. Bonne écoute et bon limoud.
L'agma répond, Mishum dehave dirash tashmishah leavir,
car il s'agit d'un lieu de résidence destiné à l'usage de l'espace qui se trouve à l'extérieur. En effet, l'espace sous cet arbre n'est pas destiné à y habiter, mais plutôt à servir de protection pour le gardien qui garde les champs. Puisque c'est ainsi, Vechol dirash tashmishah leavir, tout lieu de résidence destiné à l'usage de l'espace qui se trouve à l'extérieur, El metal tilinba yetami betzataim, on ne peut pas y porter si son espace dépasse l'équivalent de 2 CA. Car ce type de lieu de résidence n'a pas le statut d'un lieu de résidence où il est permis d'y porter quelle qu'en soit sa surface. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Eruvin Daf Tzadetet.
Nous commençons le shiur de Maseret Eruvin Daf Kouf à la troisième ligne du haut de la page aux deux points. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Sharashav Gvoim Min Haaretz » etc. Si les racines d'un arbre dépassent du sol à plus de 3 tfachim de hauteur, il est interdit de s'asseoir dessus, de la même manière qu'il est interdit de grimper à un arbre ou de l'utiliser de n'importe quelle manière. Et cela, les Chachamim l'ont décrété, de peur qu'on arrache une branche ou des brindilles ou des feuilles. Mais si les racines dépassent du sol à moins de 3 tfachim de hauteur, il sera permis de s'asseoir dessus. Et cela, car nous considérons que tout ce qui se trouve à moins de 3 tfachim du sol a le statut du sol. Donc de même qu'il est permis de s'asseoir à même le sol, il sera permis de s'asseoir sur une racine qui dépasse du sol à moins de 3 tfachim de hauteur. Alors la Gemara dit, Itmar, il a été enseigné une discussion. Shorshe ilan habaim milemala, des racines d'un arbre qui viennent d'en haut, mishlosha le torchlosha, ils viennent d'une hauteur supérieure ou égale à 3 tfachim pour s'abaisser en dessous de 3 tfachim à partir du sol, c'est-à-dire soit lorsque les racines débutent à 3 tfachim de hauteur puis s'abaissent pour arriver à moins de 3 tfachim du sol, ou bien des racines qui dépassent du sol jusqu'à atteindre une hauteur de 3 tfachim ou plus, puis elles s'abaissent à nouveau pour descendre en dessous des 3 tfachim. Rabba Amar, Mutar l'Ishtamesh Bahem, il est permis de s'en servir, c'est-à-dire il est permis de s'asseoir sur les racines, là où elles sont à moins de 3 tfachim de hauteur. Rav Shechet Amar, Asur l'Ishtamesh Bahem, il est interdit de s'en servir. C'est-à-dire même à l'endroit où les racines s'abaissent à moins de 3 tfachim du sol, il sera interdit de s'asseoir dessus. La Gemara précise, Rabba Amar, Mutar l'Ishtamesh Bahem, il est permis de s'en servir donc de la partie qui est à moins de 3 tfachim du sol, il est donc permis de s'asseoir dessus, de Chol Pachot Megimel Dehara, car tout ce qui se trouve à moins de 3 tfachim du sol, Arahi, a le statut du sol. Donc de même qu'il est permis de s'asseoir sur le sol, il est permis de s'asseoir sur ses racines qui s'abaissent à moins de 3 tfachim de hauteur. Rav Shechet Amar, Asur l'Ishtamesh Bahen, il est interdit de s'en servir, c'est-à-dire qu'il est interdit de s'asseoir sur ses racines, même après qu'elles se sont abaissées à moins de 3 tfachim du sol. Et cela, car des kivan de mikoach isur kaate, puisqu'elles proviennent d'un endroit qui était interdit à l'utilisation, c'est-à-dire puisque cette partie des racines qui se trouve à moins de 3 tfachim du sol provient de la partie des racines qui était élevée à plus de 3 tfachim du sol, Asurin, ces racines sont interdites, même lorsqu'elles se trouvent à moins de 3 tfachim du sol. Des damu kimshunita, des racines qui ressemblent à un roc escarpé, c'est-à-dire lorsqu'il y a une racine principale qui monte vers le haut, et des racines secondaires qui sortent d'elle vers le bas, ou bien le bout de la racine forme un coude pour descendre vers le bas. Des salkin leela, les racines qui montent vers le haut, à partir du moment où elles atteignent 3 tfachim de haut à partir du sol, asurim sont interdits à l'utilisation. Des nartin letatae, les racines qui descendent vers le bas, c'est-à-dire soit la racine principale avant d'avoir atteint 3 tfachim de haut, soit les racines secondaires qui sortent de la racine principale avant que celle-ci n'ait atteint la hauteur de 3 tfachim de haut. Charou sont permises à l'utilisation, et ce même selon Rav Shechet. Voir le Prisha dans Siman Shin Lamed Vav, voir cependant aussi le Ginzei Yosef. Les Tzadim, celles qui sortent sur le côté, c'est-à-dire les racines secondaires qui sortent de la racine principale après que celle-ci a atteint une hauteur de 3 tfachim, et elles descendent vers le bas, elles proviennent cependant d'un endroit interdit à l'utilisation, Plukta de Rabba ve Rav Shechet. À ce sujet, il y a une discussion entre Rabba et Rav Shechet que nous avons vue précédemment. Selon Rabba, ces racines sont permises à l'utilisation une fois qu'elle s'abaisse en dessous de 3 tfachim, tandis que selon Rav Sheshet, ses racines sont interdites à l'utilisation. Vechen amigra, il en est de même pour un arbre qui pousse dans un canal d'irrigation. Cet arbre est couvert des deux côtés par les bords de ce canal, mais les deux autres côtés sont exposés. Alors la question se pose concernant une racine ou une branche qui pousse en direction du bord du canal. À cet endroit, elle se trouve à moins de 3 tfachim de hauteur. Cependant, si nous prenons en considération la partie de l'arbre qui se trouve au fond du canal, cette branche ou cette racine se trouve à plus de 3 tfachim de hauteur. Selon Rabat, cette branche ou cette racine seront permis à l'utilisation, car finalement, à cet endroit, ils sont à moins de 3 tfachim du sol, tandis que selon Rav Sheshet, ces racines ou ces branches seront interdites, car finalement, ils proviennent d'un endroit interdit à l'utilisation. En effet, une partie de l'arbre est exposée, donc finalement, cette branche ou ces racines se trouvent à plus de 3 tfachim du sol à partir du fond du canal. Vechen bekeren zavit, il en est de même pour un arbre qui pousse dans un coin formé par deux murs. Il s'agit d'un coin à angle serré, de manière à ce que 3 parties de l'arbre sont couvertes par le mur, tandis qu'il ne reste qu'une seule partie exposée. La question se pose concernant une branche qui pousse au-dessus de ce mur, à moins de 3 tfachim du sommet du mur. Selon Rabat, cette branche sera permise à l'utilisation, puisque finalement à cet endroit, elle se trouve à moins de 3 tfachim du sol. En effet, le mur qui cache l'arbre peut être considéré aussi comme étant le sol, tandis que selon Rav Sheshet, cette branche sera interdite à l'utilisation, puisque finalement il reste une partie de l'arbre exposée. Nous considérons que cette branche provient d'un endroit interdit à l'utilisation. Hahu dikla de Hava le Abaye. Abaye avait un palmier qui poussait dans sa maison, Vehava salik beipuma, et qui sortait par une trappe dans le toit. La question se pose sur la branche qui se trouve à moins de 3 tfachim de haut à partir du toit. Ata le kameh de Rav Yosef, il s'est présenté devant Rav Yosef pour lui demander la question, est-ce qu'il a le droit de s'asseoir sur cette branche qui se trouve à moins de 3 tfachim du toit? Le charalé, il lui a permis. Amar Rav Acha bar Tachlifa, de charalach, celui qui t'a permis d'utiliser cette branche, que Rabba charalach, il te l'a permis en accord avec l'opinion de Rabba. La Gemara demande, Pshita, il est évident que celui qui permet d'utiliser cette branche, c'est uniquement selon Rabba, car selon Rav Sheshet, il devrait être interdit d'utiliser cette branche. En effet, cette branche provient d'un endroit interdit à l'utilisation, car dans la maison, il est interdit d'utiliser cet arbre. La Gemara répond, Mahou de Tema, on aurait pu penser dire à Filou le Rav Sheshet, même selon l'opinion de Rav Sheshet, cette branche sera permise à l'utilisation, car Beta Keman de Maledami, nous pouvons considérer que la maison est remplie, donc remplie de terre, et que le sol de cet arbre est le toit de cette maison. Par conséquent, Velishtamesh bepachot migimel samuch legag, il devrait être permis d'utiliser les branches qui se trouvent à moins de 3 tfachim de hauteur à partir du toit. Kamash malan, c'est pour cela que Rav Acha bar Tachlifa vient nous préciser que ces branches ne sont permises à l'utilisation que selon l'opinion de Rabba. Car finalement, dans la maison, il est interdit d'utiliser l'arbre à plus de 3 tfachim de hauteur. Ces branches qui se trouvent au-dessus du toit proviennent d'un endroit interdit à l'utilisation. En la Gemara dit, Nan, voyons voir notre Mishnah. La Mishnah dit, Sharashav gvoim min haaretz shlosha tfachim, si les racines de cet arbre dépassent du sol à une hauteur supérieure ou égale à 3 tfachim, lo yeshev alehem, il n'aura pas le droit de s'asseoir dessus. Alors la question se pose, Hechidami, comment se présente ce cas enseigné par la Mishnah? I de lo hadre kaife, si ses racines ne se courbent pas pour s'abaisser à moins de 3 tfachim du sol. Pshita, il est évident qu'il est interdit de s'asseoir dessus, car il est déjà enseigné dans une Mishnah dans Maseret Betza daf Lamedza in Amudbet qu'il est interdit de se servir d'un arbre. Et la lave, n'est-ce pas donc que Afalgav de hadre kaife, que la Mishnah vient nous enseigner que même si les branches se plient pour s'abaisser à nouveau à moins de 3 tfachim du sol, il est quand même interdit de s'asseoir dessus. Finalement, cette Mishnah serait une preuve pour l'opinion de Rav Sheshet. Lakma répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, le olam de l'eau hadre kaife. Toujours pourrais-je te dire que la Mishnah parle d'un cas où les branches ne se plient pas pour s'abaisser à nouveau à moins de 3 tfachim du sol. Veha kamash malan, mais plutôt c'est cela que la Mishnah a voulu nous enseigner. Afalgav de tzido echad shavé la aretz, qu'il est interdit de s'asseoir sur ses racines, même si un de leurs côtés se trouve au niveau du sol. C'est-à-dire si d'un côté des racines, le sol est surélevé, de manière à ce que les racines sont au même niveau ou à moins de 3 tfachim de hauteur à partir de cette partie du sol. Cependant, puisque des 3 autres côtés, les racines sont exposées et se trouvent à plus de 3 tfachim du sol, même Rabat sera d'accord que nous les considérons comme étant à plus de 3 tfachim du sol, et il sera donc interdit de s'en servir. Par conséquent, même selon Rabat, un arbre qui pousse à côté d'un mur, donc un seul des côtés de l'arbre est couvert par le mur, il sera interdit de s'asseoir sur une branche qui se trouve à moins de 3 tfachim du sommet du mur. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta, Shorshe ilan shegvoim min haaretz shlosha tfachim, des racines d'un arbre qui dépasse du sol à une hauteur supérieure ou égale à 3 tfachim, o sheyesh chalal tartehen shlosha tfachim, ou bien si en dessous des racines il y a un espace de 3 tfachim de hauteur, c'est-à-dire qu'on a creusé en dessous de manière à les exposer, et finalement, comme le précise le Mishnah Bura, la distance qui sépare le sommet des racines et le sol est supérieur ou égal à 3 tfachim, afalpi shetido echad shave laaretz, même si un des côtés de ces racines est au niveau du sol, c'est-à-dire qu'on a creusé en dessous des racines, mais d'un côté, le sol n'a pas été creusé, les racines sont donc encore au niveau du sol, ou à moins de 3 tfachim du sol, il n'aura pas le droit de s'asseoir dessus. Car étant donné que seulement un côté des racines est couvert, les 3 autres côtés sont exposés et se trouvent à plus de 3 tfachim du sol, même Rabat sera d'accord que nous considérons que ces racines sont exposées et se trouvent à plus de 3 tfachim du sol, par conséquent, il est interdit de s'en servir. Comme explique le Prime Gadim, dans Siman Shin Lamed Vav Sif Katanhe, ce cas ne ressemble pas au cas de l'arbre qui se trouve dans un canal d'irrigation, car dans ce cas, comme nous l'avons expliqué précédemment, les racines sont couvertes de 2 côtés par les parois de ce canal. Nous pouvons donc considérer que les racines sont à moins de 3 tfachim du sol par rapport aux parois du canal. Nous noterons que nous avons expliqué ce passage selon l'interprétation du Bach dans Siman Shin Lamed Vav. Voir aussi le Taz sur le même Siman. Les fiches en olin beilan, car il est interdit de grimper à un arbre pendant Shabbat, ve'en nitlin beilan, et il est interdit de se suspendre à un arbre, ve'en nishanin beilan, et il est interdit non plus de s'appuyer sur un arbre. Ve'lo ya'ale beilan mi be'odium, et il est interdit aussi de grimper à un arbre pendant la journée du vendredi, donc avant le Shabbat, ve'yeshev sham kolayom kulo, et de rester assis sur l'arbre toute la journée du Shabbat, echad ilan ve'echad kol be'ema, et ce, soit sur un arbre, ou soit sur n'importe quel animal. Aval bor shiach umehara vegader, mais dans un puits, une tranchée ou une grotte, ou sur une clôture, metapes veolé, il a le droit d'y grimper et y monter, metapes veored, ou de s'agripper pour descendre, va filohen mehama, même s'il s'agit d'une hauteur ou d'une profondeur de 100 coudées. Car l'interdiction du Shabbat n'est pas de fournir des efforts de grimper, mais plutôt les chachamim ont interdit de grimper à un arbre ou même sur un animal de peur qu'on arrache une branche de l'arbre auquel on a grimpé ou d'arracher une branche pour frapper l'animal pour le diriger. Mais les chachamim n'ont pas interdit de grimper lorsqu'il n'y a pas ce risque. Il est donc permis de grimper à un mur ou bien de descendre dans un puits. Tanechada, il est enseigné dans une braïta, im ala, s'il a grimpé à un arbre, mutar l'ered, il aura le droit d'en descendre pendant le Shabbat. Vetanechada, tandis qu'il est enseigné dans une autre braïta, Assur le Red, il n'aura pas le droit de descendre de l'arbre, il devra donc y rester tout le Shabbat. L'Agma explique, l'Akashia, il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Kan, la première braïta, parle Mibéodium, dans le cas où il a grimpé sur l'arbre avant le Shabbat. Puis le Shabbat est tombé. Par conséquent, comme explique le Rabbi Yonatan, puisqu'il n'a pas transgressé d'interdiction lorsqu'il a grimpé à l'arbre, puisque c'était avant Shabbat, les Chachamim ne l'ont pas pénalisé en lui interdisant de descendre de l'arbre pendant le Shabbat. Voir le Bach dans Siman Shin Lamed Vav. Kan, tandis qu'ici, dans la seconde Braïta, Mishecha Shecha, il s'agit d'un cas où il a grimpé à cet arbre après la tombée de la nuit, donc après l'entrée du Shabbat. Dans ce cas, les Chachamim l'ont pénalisé en lui interdisant de descendre de l'arbre pendant toute la journée du Shabbat. Viba Itema, et si tu veux, je te donnerai une autre interprétation de ces deux Braïtot. Ha veha Mishecha Shecha. Dans les deux braïtot, il s'agit d'un cas où il a grimpé à l'arbre après la tombée de la nuit. Velakashia, et quand même, il n'y a pas de contradiction entre ces deux braïtot. Kan, la première braïta, Beshogeg, parle d'un cas où il a grimpé à l'arbre par mégarde. Il avait oublié qu'il était interdit de grimper à un arbre pendant le Shabbat. Dans ce cas, les Chachamim ne l'ont pas pénalisé et lui ont permis de descendre de l'arbre pendant le Shabbat. Kan Bemezid, tandis que dans la seconde Braïta, il s'agit d'un cas où il a grimpé volontairement à l'arbre, sachant qu'il est interdit de le faire. Dans ce cas, les Chachamim l'ont pénalisé en lui interdisant de descendre de l'arbre pendant toute la journée du Shabbat. Vibaitema, et si tu veux, je te donnerai encore une troisième interprétation de ces deux Braïtot. Haveha Beshogeg. Dans les deux Braïtot, il s'agit d'un cas où il a grimpé à l'arbre pendant le Shabbat, par mégarde, c'est-à-dire qu'il avait oublié qu'il est interdit de le faire pendant le Shabbat. La discussion entre les deux Braïtot est à savoir, est-ce qu'on pénalise une personne qui a transgressé une interdiction par mégarde, de peur qu'il le fasse volontairement? Mar Savar, un des deux pense, l'auteur de la seconde Braïta pense, Kansinan, qu'on pénalise celui qui transgresse une interdiction par mégarde, de peur qu'il le fasse volontairement. C'est pour cela que cette personne qui a grimpé à l'arbre par mégarde pendant le Shabbat n'aura pas le droit d'en descendre pendant toute la journée du Shabbat. Umar Savar, tandis que l'autre pense, l'auteur de la première Braïta pense, Lokan Sinan, on ne pénalise pas celui qui transgresse une interdiction par mégarde, de peur qu'il le fasse volontairement. Par conséquent, cette personne qui a grimpé à l'arbre par mégarde pendant le Shabbat aura le droit d'en descendre. Amar Rav Huna Bereh de Rav Yoshua Ketanaï. La discussion entre ces deux Braïtot est la même que celle que nous voyons dans la Mishnah, dans Maseret Zvachim Dafpe. Il s'agit donc, dans les deux Braïtot, d'un cas où il a même grimpé volontairement à un arbre pendant le Shabbat, sachant qu'il est interdit de le faire, et quand même, à ce sujet, il y a une discussion entre des Tanaïm s'il est permis d'en descendre pendant le Shabbat ou non. Il s'agit d'une discussion que nous voyons dans Maseret Zvachim Dafpe Amudalef, concernant l'aspersion du sang des sacrifices lorsque le sang de deux sacrifices se sont mélangés. Comme il est expliqué longuement dans le cinquième pérec de Maseret Zvachim, le nombre et le type d'aspersion varient selon le type de sacrifice. Par exemple, pour le premier-né animal, une seule aspersion de sang est suffisante dans la moitié inférieure de l'autel. Pour le Korban Ola, le Korban Shlamim ou le Korban Hasham, ce sont deux aspersions qui font quatre. C'est-à-dire, le Kohen doit asperger le sang de ce sacrifice aux deux coins opposés de l'autel, c'est-à-dire au coin sud-ouest et au coin nord-est, directement à partir de l'ustensile qui contient le sang, de manière à ce que le sang se propage de deux côtés. C'est-à-dire, au coin sud-ouest, le sang se propage à la fois au sud et à l'ouest de l'autel, et au coin nord-est, le sang se propage au nord et à l'est de l'autel. Et ce, aussi, dans la moitié inférieure de l'autel. Ainsi, pour ce sacrifice, il y a deux aspersions, mais qui se propagent en quatre directions. Pour le Korban Khatat, ce sont quatre aspersions que le Kohen applique avec son doigt sur les quatre cornes de l'autel qui dépassent de son sommet. La Mishnah dit, Hanitanin bematana achat, du sang d'un sacrifice qui ne nécessite qu'une seule aspersion sur l'autel, Shenitarvu benitanin matana achat, qui s'est mélangé avec le sang d'un autre sacrifice qui ne nécessite aussi qu'une seule aspersion sur l'autel. Par exemple, si le sang d'un premier-né animal s'est mélangé avec le sang d'un autre premier-né animal, inatnu bematana achat, puisqu'il s'agit d'un même type de sacrifice, ce sang ne sera aspergé qu'une seule fois sur l'autel, et cette aspersion comptera pour les deux sacrifices, voir le Tosfot Arosh. Matan arba bematan arba, du sang d'un sacrifice qui nécessite quatre aspersions, qui s'est mélangé avec du sang d'un autre sacrifice qui nécessite aussi quatre aspersions, c'est-à-dire soit le sang d'un korban khatat qui s'est mélangé avec le sang d'un korban khatat, soit le sang d'un korban ola ou shlamim qui s'est mélangé avec le sang d'un autre sacrifice du même type comme le korban ola, shlamim ou hasham. Alors là aussi, puisqu'il s'agit du même type de sacrifice, c'est-à-dire qui nécessite le même type d'aspersion, inatnu bematan arba, on fera avec le sang de ce mélange quatre aspersions, c'est-à-dire s'il s'agit d'un korban khatat, quatre aspersions sur les quatre cornes qui dépassent du sommet de l'autel, ou s'il s'agit d'un korban ola, shlamim ou hasham, on fera deux aspersions qui font quatre, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et ces aspersions compteront pour les deux sacrifices. Matan arba bematan achat, du sang d'un sacrifice qui nécessite quatre aspersions, qui s'est mélangé avec du sang d'un sacrifice qui ne nécessite qu'une seule aspersion, c'est-à-dire soit du sang d'un korban ola, par exemple, qui s'est mélangé avec du sang d'un premier-né animal, comme l'explique le Tosfot, soit, si, comme l'explique le Aruch Laner dans Maseret Rosh Hashanah Dav Kafret Amud Bet, les deux Tanaïm qui discutent sur ce cas pensent comme Rabbi Eliezer qui dit plus haut dans cette Mishnah que lorsque du sang destiné à être aspergé sur la moitié supérieure de l'autel, comme le korban khatat, s'est mélangé avec du sang d'autres sacrifices destinés à être aspergés dans la moitié inférieure de l'autel, il existe une solution pour que le korban soit kasher, et c'est sur cette solution que discutent Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la Mishnah. Alors, Rabbi Eliezer Omer, Inatnu Bematan Arba, s'il s'agissait d'un korban ola qui s'est mélangé avec le sang d'un premier-né animal, on fera deux aspersions qui font quatre. Même s'il y a une aspersion en trop pour le premier-né animal, ce n'est pas grave, mais au moins il a accompli les aspersions correctement pour le korban ola. S'il s'agissait d'un korban khatat qui s'est mélangé avec le sang d'un premier-né animal, on fera les quatre aspersions aux quatre cornes qui dépassent de l'autel pour le sang du korban khatat, puis une aspersion supplémentaire pour le sang du premier-né animal qui sera faite dans la moitié inférieure de l'autel. Même s'il y a des aspersions en trop, ce n'est pas grave, il aura au moins accompli la mitzvah des aspersions pour les deux sacrifices. Et l'interdiction d'ajouter sur la mitzvah en ajoutant des aspersions supplémentaires est repoussée par le commandement de faire le nombre des aspersions requises par la Torah. Rabbi Yoshua Omer, Inatnu Bematana Achat, on ne fera qu'une seule aspersion avec le sang de ce mélange. S'il s'agissait d'un korban ola, le sang sera aspergé à un des coins de l'autel, comme nous l'avons expliqué. S'il s'agissait d'un korban khatat, ce sang sera appliqué à une des cornes qui dépasse du sommet de l'autel. Cette aspersion sera valable pour les deux sacrifices. Et cela selon la loi qui dit que même une seule aspersion est suffisante pour le korban soit kasher, même s'il y a une mitzvah de faire le nombre des aspersions requises par la Torah. Amar lo, Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yoshua, en faisant une seule aspersion, donc moins que le nombre des aspersions requises par la Torah, harehu over al baltigra, il transgresse l'interdiction de diminuer le nombre requis par la Torah pour l'accomplissement d'une mitzvah. Amar lo, Rabbi Yoshua a demandé à Rabbi Eliezer, en faisant des aspersions supplémentaires pour un des sacrifices, harehu over al baltosif, il transgresse l'interdiction d'ajouter sur la mitzvah ou sur le nombre requis par la Torah pour l'accomplissement d'une mitzvah. Amar Rabbi Eliezer a répondu, Lo Amrou, ils n'ont dit, c'est-à-dire la Torah ne dit qu'on transgresse une interdiction en ajoutant sur la mitzvah ou sur le nombre requis par la Torah pour l'accomplissement d'une mitzvah, et là que lorsque le sang en question se trouve tout seul, sans mélange, en ajoutant une aspersion supplémentaire, on transgresse cette interdiction. Mais lorsque le sang est mélangé et l'aspersion supplémentaire vient pour l'autre sacrifice, cette interdiction n'existe pas. Par conséquent, comme explique le Tosfot dans Maseret Rosh Hashanah Daf Kafret, il vaut mieux accomplir entièrement la mitzvah des aspersions que d'en diminuer le nombre, bien que si on en diminuait le nombre, on ne transgresserait pas l'interdiction de diminuer du nombre requis pour l'accomplissement d'une mitzvah, car finalement, il s'agit d'un mélange, comme nous le verrons par la suite, car au moins, il aura accompli entièrement la mitzvah des aspersions. Amar lo Rabbi Yoshua lui a répondu à Rabbi Eliezer, l'onemar baltigra, l'interdiction de diminuer du nombre requis par la Torah pour l'accomplissement d'une mitzvah n'est dite, et là, kshehu be'atzmo, uniquement lorsque le sang en question est tout seul, sans mélange. Mais lorsque le sang de ce sacrifice est mélangé avec le sang d'un autre sacrifice, et pour s'abstenir d'ajouter des aspersions supplémentaires, il n'en fait qu'une, il ne transgresse pas cette interdiction. Par conséquent, comme l'explique le Tosfot dans Masechet Rosh Hashanah Daf Kafret Amudbet et le Taharat HaKodesh dans Masechet Zvachim Daf Pe, même s'il est vrai qu'il ne transgresse pas l'interdiction d'ajouter sur les aspersions lorsqu'il y a un mélange, mais il n'accomplit pas vraiment la mitzvah en faisant le nombre requis des aspersions, car de toute façon, le sang est mélangé. Il vaut mieux donc s'abstenir et ne pas faire d'aspersion supplémentaire, mais de faire uniquement le strict minimum. V'od amar Rabbi Yoshua a présenté un raisonnement supplémentaire. Même si nous ne disons pas que les interdictions d'ajouter ou de diminuer sur le nombre requis par la Torah pour l'accomplissement du mitzvah n'existent pas lorsque le sang est mélangé avec le sang d'un autre sacrifice, cependant, il y a une autre raison pour s'abstenir, pour ne faire que le strict minimum. Car kshenatata, lorsque tu ajoutes des aspersions supplémentaires, avarta albaltosif, tu as transgressé l'interdiction d'ajouter sur la mitzvah ou sur le nombre requis pour l'accomplissement d'une mitzvah, ve'asita ma'aseh be'adecha, et tu as fait une action avec tes mains. Autrement dit, tu as transgressé l'interdiction d'ajouter sur la mitzvah d'une manière active. Kshelonatata, mais lorsque tu ne fais pas d'aspersion supplémentaire en ne faisant qu'une seule aspersion, avarta al baltigra, il est vrai que tu transgresses l'interdiction de diminuer du nombre requis pour l'accomplissement d'une mitzvah, velo asitama seviyadecha, mais tu n'as pas fait une action avec tes mains. Autrement dit, tu n'as transgressé cette interdiction de diminuer du nombre requis par la Torah pour l'accomplissement d'une mitzvah uniquement d'une manière passive. Ceci vaut mieux que de transgresser une interdiction minatora d'une manière active. Alors en ce qui concerne la personne qui a grimpé un arbre pendant le Shabbat, il y a aussi le même dilemme. D'une part, en descendant de l'arbre, il transgresse l'interdiction d'utiliser un arbre d'une manière active, mais en restant assis dessus, il transgresse aussi cette interdiction d'utiliser un arbre, mais d'une manière passive. En l'air Rabbi Eliezer de Amar Hatam, selon l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit là-bas, en ce qui concerne le cas où le sang de différents sacrifices se sont mélangés, kum ase adif, il vaut mieux se lever et même faire une action qui serait une transgression, mais au moins la mitzvah serait accomplie d'une manière complète. Hachanami Yered, ici aussi dans notre cas, où il a grimpé à l'arbre pendant le Shabbat, il vaut mieux qu'il descende, bien qu'il transgresse de cette manière une interdiction d'utiliser l'arbre, mais au moins, il restreint le temps d'utilisation de l'arbre, donc il diminue la transgression, car en restant sur l'arbre, il transgresse aussi la même interdiction, et cela pour une période de temps plus longue, car il devra y rester jusqu'à la fin du Shabbat. Les Rabbi Yoshua d'Amar Hatam, selon l'opinion de Rabbi Yoshua qui dit là-bas, concernant le cas où le sang de différents sacrifices se sont mélangés, Shev Alta Seadif, reste assis et ne fait rien et mieux. Autrement dit, il vaut mieux s'abstenir de faire des aspersions supplémentaires et ne faire qu'une seule aspersion pour ne pas transgresser l'interdiction d'une manière active. Hachanami, ici aussi dans notre cas, Lo Yered, lorsqu'il a grimpé à l'arbre pendant le Shabbat, il n'aura pas le droit d'en descendre pendant tout le Shabbat. Et cela car s'il descend, il transgresse l'interdiction d'utiliser l'arbre d'une manière active, tandis que s'il y reste, il transgresse cette même interdiction uniquement d'une manière passive. La Gemara demande, Dilma Lohi, peut-être que ce n'est pas vrai. Cette discussion n'est pas la même et ne peut pas être appliquée dans notre cas. Car Adkan Lokama Rabbi Eliezer, jusque-là nous avons vu l'opinion de Rabbi Eliezer Hatam là-bas concernant le cas où le sang de différents sacrifices se sont mélangés. Et il dit, Kuma se adif, il vaut mieux se lever et transgresser une interdiction d'une manière active en ajoutant des aspersions supplémentaires. Et là, des kavid mitzvah, uniquement lorsqu'en agissant ainsi, il accomplit une mitzvah en faisant le nombre d'aspersions requis par la Torah pour ce sacrifice. Abalacha, mais ici, dans notre cas de cette personne qui a grimpé à l'arbre pendant le Shabbat de l'avid mitzvah, où il n'accomplit pas de mitzvah en descendant de l'arbre, car même s'il est vrai qu'en descendant de l'arbre, il transgresse moins d'interdictions, néanmoins, il n'accomplit pas de mitzvah en descendant de l'arbre. Hachanami, il est possible qu'effectivement, même Rabbi Eliezer serait d'accord que Lo Yered, il n'aura pas le droit de descendre de l'arbre s'il y a grimpé pendant le Shabbat. Veinami, ou bien encore, nous pouvons dire, Adkan lo kamar Rabbi Yoshua Atam, jusque-là nous avons vu l'opinion de Rabbi Yoshua là-bas à propos du cas où le sang de différents sacrifices s'est mélangé, où il dit Sheval Taase Adif, il vaut mieux s'abstenir et ne rien faire en diminuant les aspersions. Et là, uniquement dans le cas où...
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kufa Alef Amud Bet, de Loka Avidisura, où, en diminuant le nombre des aspersions, il ne transgresse pas d'interdiction. C'est-à-dire, il est vrai qu'il manque à l'accomplissement d'une mitzvah, et donc, en n'ayant pas accompli entièrement la mitzvah, il y a une transgression qui a eu lieu. Cependant, cette transgression arrive d'elle-même sans participation de sa part. C'est au contraire le manque de participation de sa part qui est la transgression. Avalacha, mais ici, dans l'autre cas, où il est question qu'il reste sur l'arbre ou non, des cas avidisura, où en restant sur l'arbre, il transgresse une interdiction, quoique passive, mais en tout cas, en utilisant l'arbre, il transgresse cette interdiction, avec participation de sa part, Hachinami Diered, il est possible que même Rabbi Yoshua serait d'accord qu'il doit descendre de l'arbre, même si en se faisant, il transgresse une interdiction active d'utiliser l'arbre. Finalement, cette question à savoir s'il doit descendre de l'arbre ou non, ne peut pas dépendre de cette discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. la contradiction entre les deux braïtot que nous avons vues précédemment soit répondue par les interprétations que nous avons données précédemment. Tane Chada, il est enseigné dans une braïta, il est interdit de grimper à un arbre, et Chad Ilan Lach, soit dans le cas d'un arbre qui a de l'humidité, donc de la verdure, c'est un arbre vivant, Bechad Ilan Yavesh, soit dans le cas d'un arbre sec, donc d'un arbre mort. Betania Idar, il est enseigné dans une autre braïta, Bamedvarim Amurim, quand ces choses sont dites qu'il est interdit de grimper à un arbre, Belach, c'est lorsqu'il s'agit d'un arbre qui a de l'humidité, donc de la verdure, c'est un arbre vivant, Aval Beyavesh, mais si c'est un arbre sec, donc un arbre mort, Moutar, il est permis d'y grimper. Amar Rav Yehuda, l'Akashia, il n'y a pas de contradiction entre ces deux braïtot. Kan, dans la première braïta qui interdit de grimper à un arbre sec, Beshe Gizo Machlif, il s'agit d'un arbre qui a perdu ses feuilles, mais le tronc est encore vivant, il fera de nouveau pousser des feuilles et des branches. Kan, dans la seconde braïta, Beshe Em Gizo Machlif, il s'agit d'un arbre qui a perdu ses feuilles, et le tronc n'en fera pas repousser, car l'arbre est mort. Et c'est pour cela qu'il sera permis d'y grimper le Shabbat. La Gemara demande, Gizo Machlif, un arbre qui a perdu ses feuilles et dont le tronc en fera repousser, Yavesh Karitle, peux-tu l'appeler un arbre sec, ce qui voudrait dire un arbre mort? Ce n'est pas un arbre mort. La Gemara répond, et là plutôt, l'Akashia, il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Dans les deux braïtot, il s'agit d'un arbre mort, mais Kan, dans la seconde braïta, Bimot Achama, c'est en été. Puisque cela se voit que c'est un arbre mort, il sera permis d'y grimper pendant le Shabbat. Kan, mais dans la première braïta, Bimot Akshamim, c'est en hiver, où tous les arbres ont perdu leurs feuilles, il est donc impossible de reconnaître l'arbre mort de l'arbre vivant. Puisque c'est ainsi, il est interdit de grimper en hiver même à un arbre mort. La Gemara demande, Bimot Achama, comment se fait-il qu'il soit permis de grimper à un arbre mort en été? Hanat Repere, pourtant, s'il y a des fruits qui restent de l'année dernière, ils risquent de tomber. Or, il est vrai qu'il n'y a pas lieu de décréter d'interdire de grimper à un arbre mort, de peur qu'on grimpe à un arbre vivant, car le fait qu'il soit interdit de grimper à un arbre vivant n'est interdit qu'à cause d'un décret. Ce serait donc un décret pour renforcer un autre décret, mais il devrait quand même être interdit de grimper à un arbre mort en été, de peur qu'on fasse tomber des fruits qui s'y trouvent, et ceci devrait être interdit de peur qu'on fasse tomber ou arracher des fruits d'un arbre vivant, ce qui serait une interdiction minatora. L'Agma répond, Bedele Kapere, il s'agit d'un cas où dans cet arbre mort, il n'y a pas de fruits. Il n'y a donc aucune raison d'interdire d'y grimper en été. L'Agma demande, Veha Kanatre Kinse, pourtant en grimpant à cet arbre, il peut faire tomber des brindilles, ce qui devrait être interdit de peur qu'il le fasse à un arbre vivant et transgresser ainsi une interdiction minatora. L'Agma répond, Begduda, il s'agit ici d'un tronc lisse qui n'a pas de branches ni de brindilles. Il n'y a donc aucun risque et c'est pour cela qu'il sera permis d'y grimper en été. La Gemara demande, Eni, ce n'est pas vrai. Veha Rav Ikla le Apastia, voici que Rav est arrivé en visite à la ville de Apastia, Veasar Bigduda, et il leur a interdit de grimper un tronc lisse, même en été, et cela bien qu'il s'agissait d'un arbre mort. Nous voyons donc qu'il est interdit de grimper un tronc d'un arbre mort qui est lisse, même en été. La Gemara répond, Rav Bik Amatsa, Rav a trouvé une vallée non clôturée, Vegadarbar Geder, et il l'a entourée d'une clôture. Autrement dit, lorsque Rav est arrivé à cet endroit, qui s'appelle Apastia, il a vu que c'était des gens ignorants qui négligeaient l'observance du Shabbat, et pour renforcer l'observance du Shabbat, il a dû leur interdire de grimper au tronc d'un arbre mort, qui est lisse, même en été. Amar Rami Baraba, Amar Ravasi, Asur le Adam Sheihalech al Gabe Asavim be Shabbat, un homme n'a pas le droit de marcher sur de l'herbe pendant le Shabbat, car il risque d'en arracher. Mishum Sheneemar, car le pasuk dit dans Mishle Yutet, Ve'atz beraglaim chote, celui qui se dépêche de courir avec ses pieds sans réfléchir, il faute. De là nous apprenons qu'un homme doit faire attention où il marche. Par exemple, il doit faire attention où il marche le Shabbat, car s'il marche sur de l'herbe, il risque d'en arracher. Tanechada, il est enseigné dans une braïta, Mutar lelech al gabe asabim be Shabbat, il est permis de marcher sur de l'herbe pendant le Shabbat. Vetania idach, tandis qu'il est enseigné dans une autre braïta, Assur, il est interdit de marcher sur de l'herbe pendant le Shabbat. Alagmar dit, l'Akashia, il n'y a pas de contradiction entre ces deux braïtot. Ha, la deuxième braïta, Belachim, parle d'une herbe qui a de l'humidité, autrement dit, d'une herbe verte. Il y a donc le risque qu'il en arrache et ainsi transgresser une interdiction minatora. Ha, dans la première braïta, Beveshim, il s'agit d'herbe sèche, considérée comme étant détachée de la terre. Même s'il en arrache, il ne transgresse pas une interdiction minatora. Il n'y a donc aucune interdiction de marcher sur de l'herbe sèche pendant le Shabbat. Bibaitema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Ha veha, dans les deux braïtot belachim, il s'agit d'une herbe où il y a de l'humidité, donc de l'herbe verte. Vela kashia, et quand même, il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Kan, dans la seconde braïta, bimot hachama, il s'agit de l'été, où il y a des graines dans l'herbe, il risque donc de les faire tomber en marchant, et il transgresserait donc une interdiction minatora. Kan, tandis que dans la première braïta, bimot hagshamim, il s'agit de l'hiver, où il n'y a pas de graines qu'il risque de faire tomber en marchant, donc nous ne craignons pas qu'il arrache de l'herbe en marchant. Veibaitema, et si tu veux, je te donnerai une autre interprétation de ces deux braïtot. Ha veha bimot hachama. Dans les deux braïtot, il s'agit d'herbes vertes en été. Vela kashia, et quand même, il n'y a pas de contradiction entre les braïtot. Ha, dans la première braïta, desayem mesane, il s'agit d'un cas où il porte des chaussures. Dans ce cas, il n'y a pas de risque qu'il arrache de l'herbe en marchant. Ha, dans la seconde braïta, delo mesayem mesane, il s'agit d'un cas où il ne porte pas de chaussures. Dans ce cas, il y a un risque que l'herbe s'accroche entre ses orteils et il l'arrache ainsi en marchant. Bibaitema, et si tu veux, je te donnerai encore une autre interprétation de ces deux braïtot. Ha veha desayem mesane. Dans les deux braïtot, il s'agit d'un cas où il porte des chaussures, et il s'agit aussi d'herbes vertes en été. Vela kashia, et quand même, il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Ha, dans la seconde braïta, des itle uktse, il s'agit d'un cas où, sous sa chaussure, il y a une espèce de pointe ou un clou plié qui risque d'accrocher l'herbe en marchant, et il risque donc d'en arracher. Ha, tandis que dans la première braïta, des detle uktse, il s'agit d'un cas où il n'y a pas de pointe ou de clou sous sa chaussure, il n'y a donc pas de risque qu'il arrache de l'herbe en marchant. Veibaitema, et si tu veux, je te donnerai encore une autre interprétation de ces deux braïtot. Ha veha deitle uktse. Dans les deux cas, il s'agit d'un cas où il y a une pointe ou un clou plié sous sa chaussure. Cependant, ha, dans la seconde braïta, deitle sarcha, il s'agit d'un cas où il y a une longue mèche, c'est-à-dire où l'herbe est longue, elle risque donc de s'accrocher à la pointe qui se trouve sous sa chaussure et il risque de l'arracher en marchant. Ha, tandis que dans la première braïta, deletle sarcha, il s'agit d'un cas où il n'y a pas de mèche, autrement dit, l'herbe est courte, même s'il a une pointe sous sa chaussure, il n'y a pas beaucoup de risque qu'elle s'accroche sous sa chaussure et qu'il en arrache en marchant. La Gemara conclut, Vehaïdna, mais aujourd'hui, des Kaimalan que Rabbi Shimon, où la halakha est établie comme Rabbi Shimon, qui pense qu'un homme a le droit de faire une action qui risque d'entraîner une action interdite lorsqu'il n'a pas l'intention de le faire. Kulhu Share, dans tous les cas, il est permis de marcher sur l'herbe, car même s'il en arrachait en marchant, il n'a pas transgressé d'interdiction, car il n'avait pas l'intention de le faire. Ve Amar Rami Barchama Amar Rabasi, Asur le Adam Shiakuf Ishto le Dvar Mitzvah. Un homme n'a pas le droit d'imposer sa volonté à sa femme d'accomplir une mitzvah. C'est-à-dire, il est vrai que les rapports intimes avec sa femme sont une mitzvah, mais ce n'est que lorsqu'elle est consentante, tandis que lorsqu'elle ne l'est pas, un homme n'a pas le droit d'imposer sa volonté à sa femme d'accomplir cette mitzvah. Chez Nehemar, car le pasuk dit dans Mishlei Yutet, Ve'atz beraglaim chote, celui qui se dépêche avec ses pieds, c'est-à-dire celui qui se dépêche de courir sans réfléchir, faute. Nous pouvons expliquer que le terme beraglaim, avec les pieds, est en fait une manière propre de désigner les rapports intimes, comme nous le voyons dans un pasouk dans Shoftim He. Selon cette interprétation, nous pouvons dire, celui qui se dépêche d'avoir des rapports intimes sans le consentement de sa femme, faute. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol hakofe ishto ledvar mitzvah, tout celui qui impose sa volonté à sa femme d'accomplir cette mitzvah, d'avoir des rapports intimes, havian lo banin she'enam mehuganin, aura des enfants incorrects, c'est-à-dire effrontés ou même mécréants. Amar Ravika bar Chinena, me'ekra, de quel pasouk le sait-on? Il répond, nous l'apprenons du début du pasouk que nous avons mentionné plus haut. Au début de ce pasouk, il est dit « Gam belo da'at nefesh lotov » aussi sans l'accord et le consentement de sa femme. Donc, celui qui a un rapport intime avec sa femme sans son consentement, l'âme créée par cette union ne sera pas bonne. Donc, l'enfant né de cette union ne sera pas bon, il sera effronté ou mécréant. Tanya Namiachi, il est enseigné ainsi aussi dans une braïta qui interprète ce pasouk dans Mishlei Yutet. Le pasouk dit « Gam belo da'at nefesh lotov » aussi sans le consentement de sa femme. Donc celui qui a un rapport intime avec sa femme sans son consentement, l'âme créée par cette union ne sera pas bonne. « Ze hakofe ishto ledvar mitzvah » le pasouk parle de celui qui impose sa volonté à sa femme d'accomplir cette mitzvah, d'avoir un rapport intime. Ve'atz beraglaim chote, lorsque le pasouk conclut et dit, et celui qui se dépêche avec ses pieds faute, comme nous l'avons expliqué précédemment, le terme raglaim, pied, fait allusion au rapport intime. Ze haboel veshone, c'est celui qui a un rapport intime avec sa femme, puis en a un second sans son accord. En la Gemara demande, eni, ce n'est pas vrai, veha amar rava, pourtant rava dit, harotze la sot kolbanav zeharim, celui qui veut faire en sorte que tous ses enfants soient mal, yivol veishne, la solution est d'avoir un rapport intime avec sa femme, puis d'en avoir un second immédiatement après. Et cela, car le premier rapport éveille le désir chez la femme, de manière à ce que, pendant le second rapport, ce que les Chazal appellent la semence de la femme est sécrétée en premier. Par conséquent, l'enfant né de cette union sera un garçon. En tout cas, nous voyons de là que c'est une bonne chose d'avoir deux rapports consécutifs. L'Agma répond, l'Akashia, il n'y a pas de contradiction. Kan, ici, en ce qui concerne l'enseignement de Rava, les dates, c'est lorsque le second rapport est avec le consentement de la femme. Dans ce cas, c'est une bonne chose, comme nous l'avons vu. Kan, tandis que dans la Braïta, chez l'Ole date, il s'agit d'un second rapport sans le consentement de la femme. Dans ce cas, c'est interdit. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan Kol Isha Shetovat Baala Ledvar Mitzvah. Toute femme qui invite son mari à accomplir une mitzvah, d'avoir un rapport intime, Havyan La Banim, elle aura des enfants, Shafilu Bedoro Shel Moshe Lo Hayu Kemotam, qui même dans la génération de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas leur pareil. De Ilu Bedoro Shel Moshe, car à propos de la génération de Moshe Rabbeinu, Ktiv, le Pasuk dit dans Dvarim Aleph, lorsque Moshe Rabbeinu a cherché à nommer des juges sur les différentes tribus, le pasouk dit « Havu lachem anashim chachamim unvonim viduim lishivtechem » « Choisissez-vous des hommes instruits et sages, c'est-à-dire qui ont la faculté de déduire une chose d'une autre et qui sont connus de vos tribus pour les nommer comme juges. » Urtiv, et le pasouk dit par la suite « Vaekach edrashe shivtechem anashim chachamim viduim » Et j'ai pris les têtes de vos tribus, des hommes instruits et connus. Ve'ilu nevonim lo'ashkach, tandis que des hommes sages qui ont la possibilité de déduire une chose d'une autre, il n'en a pas trouvé assez pour les nommer comme juges. Ve'ilu gabel Léa, tandis qu'à propos de Léa, Ktiv, il est écrit dans Bereshit Lamed, Vatetze Léa likrato, et Léa est sortie vers lui, vers Yaakov Avinu, va Tomer, et lui a dit, Elai tavo ki sachor sechartira, viens chez moi, car je t'ai loué en échange des fleurs de mon fils. Donc, elle a invité pour l'accomplissement de la mitzvah d'avoir des rapports intimes, et de cette union est né Yissachar, Uktiv, et le pasouk dit, dans Divrei Hayamim Aleph, Perek Yudbet, Umi bnei Yissachar yode bina laitim, et parmi les enfants de Yissachar, donc parmi la descendance de Yissachar, il y en avait qui possédait la sagesse, il savait déduire une chose d'une autre pour savoir quoi faire selon le moment. Ils avaient le pouvoir de donner des conseils, par exemple, comment diriger une guerre. Aussi, comme l'expliquent les Chazal, ils avaient une connaissance profonde de l'astronomie, de manière à connaître parfaitement le cycle lunaire et des signes du zodiaque. Ils savaient donc déterminer quand tomberait Rosh Chodesh et quand est-ce qu'il fallait ajouter un mois dans l'année. La date Maya c'est Israël. Ils savaient donc qu'est-ce que devaient faire les Bnei Israël, soit comment faire la guerre, soit quand fixer les débuts des différents mois de l'année. Rachehem Mataim, leur chef était au nombre de 200, Vechol Achehem Alpiem, et tous leurs frères agissaient selon leurs paroles. En tout cas, nous voyons que les descendants de Issachar avaient la sagesse profonde qui n'existait pas au temps de Moshe Rabbeinu. Et cela, parce que comme nous l'avons vu précédemment, car pour donner naissance à Issachar, leur ancêtre, Léa avait invité Yaakov à accomplir la mitzvah d'avoir des rapports intimes. La Gemara demande, et ni ce n'est pas vrai, Veha Amar Rav Yitzhak Bar Avdimi, Eser Klalot Nitkalela Chava. Chava a été frappée de 10 malédictions lorsqu'elle a mangé du fruit défendu, dirtiv, car le pasuk dit dans Bereshit Gimel, concernant ces malédictions qui ont frappé Chava, El Haisha Amar, et Hachem dit à la femme, Harba Arbe, je multiplierai tes souffrances, du fait que le pasuk répète à deux reprises le terme de Arbe, qui veut dire multiplier, nous apprenons de là, Elou Shne Tipe Damim, il s'agit ici de deux gouttes de sang qui font souffrir la femme, Achat Damnida, une de ces gouttes c'est le sang de la menstruation, Veachat Dambetulim, et une de ces gouttes est le sang de l'hymen. Ces deux écoulements de sang causent de la souffrance à la femme. Puis le pasouk continue et dit, Itzvoner, ta souffrance. Zetzar Gidulbanim, il s'agit de la souffrance d'élever les enfants. Puis le pasouk continue et dit, Veheroner, et la période où tu es enceinte. Zetzar Aibur, c'est la souffrance de la femme lorsqu'elle est enceinte. Puis le pasouk continue et dit, Beetsev Teldibanim, tu enfanteras des enfants dans la souffrance. Kemashmao, ce passage se comprend littéralement. Il s'agit en effet de la souffrance de l'accouchement. Puis le pasouk continue et dit, Ve'el Isher Teshukater, et ton désir sera d'être proche de ton mari. Melamed, cela nous enseigne, Sheha Isha Mishtokeket, nous lisons selon le Bar, El Baala Besha'a Sheyotzela Derer, que la femme a un désir particulier d'être proche de son mari lorsqu'il s'apprête à partir en chemin. Puis le pasouk dit, Ve'hu Yimshol Bar, et il te dirigera, autrement dit, c'est le mari qui est le chef. Melamed, cela nous enseigne, Sheha Isha Tovaat Balev, que la femme exprime son désir d'être avec son mari dans son cœur, autrement dit, qu'elle n'exprime pas ouvertement qu'elle désire être avec son mari, Veha Ish Tovea Bepe, tandis que l'homme exprime son désir d'être avec sa femme par sa bouche, autrement dit, il le dit ouvertement. Sur ce, la Gemara conclut, Zuhi Mida Tova Banashim, ceci, que la femme n'exprime pas ouvertement son désir d'être avec son mari, est le bon côté de cette malédiction concernant les femmes, c'est-à-dire pour préserver la pudeur et la dignité de la femme, c'est une bonne chose qu'elle n'exprime pas ouvertement son désir d'être avec son mari. En tout cas, nous voyons de cet enseignement de Rabbi Yitzhak Bar Avdimi que ce n'est pas bien qu'une femme exprime ouvertement son désir d'avoir un rapport intime avec son mari. Alors comment se fait-il que Rav Shmuel Bar Nachman dit que c'est une bonne chose qu'une femme invite son mari à avoir un rapport intime? L'Agma répond, « Kikam Rinan, quand est-ce que nous disons que c'est une bonne chose qu'une femme invite son mari à avoir un rapport intime ?»« De Marzia Artsuye Kame, c'est lorsqu'elle le lui fait comprendre discrètement, en lui montrant des signes d'amour. Mais si elle l'invite ouvertement, au contraire, c'est une effronterie. » L'Agma demande, « Hane Sheva Avian, les malédictions qu'a énumérées Rav Yitzhak Bar Avdimi sont au nombre de 7, alors qu'il avait dit qu'il y en avait 10. » L'Agma répond, « Kiata Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu d'Eretz Israël, Amar il a dit qu'il y en a encore 3 autres. Atufa ke Avel, elle se couvre la tête comme une personne endeuillée. En effet, une femme se gêne de sortir dans la rue, la tête découverte. Umenuda mikol adam, et elle est excommuniée de tout homme, l'Agma expliquera, Vechabusha bevet asurim, elle est enfermée dans une prison. C'est-à-dire qu'elle n'est pas censée sortir de chez elle, car comme il est dit dans un pasouk, toute la dignité de la fille du roi, donc d'une Bat Israël, est lorsqu'elle se trouve à l'intérieur de sa maison, qu'elle ne sort pas dehors. Alors, la Gemara demande, Mai Menuda Mekol Adam, que veut dire Avdimi lorsqu'il dit qu'elle est excommuniée de tout homme? Il est Mamishum de Asirla Yichud, si c'est parce qu'une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un homme. Or ceci n'est pas particulier à la femme, car Ihunami Asirla Yichud, l'homme lui aussi n'a pas le droit de s'isoler avec une femme. L'Agma répond, elle a plutôt d'Asira le Betré, qu'une femme n'a pas le droit de se marier avec deux hommes, tandis qu'un homme a le droit de se marier avec deux femmes. Bematnita Tana, il est enseigné dans une braïta une liste de 3 autres malédictions. La première, c'est Megadelet Sear Kelilit, la femme fait pousser ses cheveux comme un démon femelle. La deuxième, c'est Beyoshevet ou Mashtenet Maim Kibehema, elle doit s'asseoir pour uriner, comme le fait un animal. En effet, comme nous le verrons plus loin, la mule se baisse pour uriner. Et la troisième, c'est Venasit Karlebala. Elle est un matelas pour son mari, car pendant les rapports intimes, c'est lui qui se trouve au-dessus. Beidar, et l'autre, c'est-à-dire Rav Dimi, qui ne compte pas ces points parmi les malédictions qui ont frappé la femme, c'est parce que Hane Shevahula, ces points sont au contraire un avantage pour la femme. En effet, comme il est expliqué dans le commentaire du Yavetz qui se trouve à la fin de la Gemara, en se laissant pousser les cheveux, au contraire, la femme s'embellit. Et le fait qu'elle doive s'asseoir pour uriner est un avantage pour sa pudeur, et le fait qu'elle ait un matelas pour son mari est aussi un avantage pour elle, car ainsi, elle fournit moins d'efforts que l'homme. D'Amar Rabbi Chia, Maïdirtiv, que veut dire le pasouk dans Iov Lamedhe qui dit Malfeinu mi bahamot aretz ou meof hashamaim yichakemenu. Hachem nous a enseigné plus d'intelligence qu'aux animaux de la terre, et il nous a accordé plus de sagesse qu'aux oiseaux du ciel. Alors Rabbi Chia interprète le pasouk différemment. Malfeinu mi bahamot, etc. Tu nous enseignes la sagesse à partir des animaux de la terre. C'est-à-dire qu'on peut apprendre de l'intelligence des animaux de la terre. Zu prida shekora tumashtenet maim. Le pasouk fait allusion à la mule qui s'abaisse pour uriner. C'est-à-dire que nous pouvons apprendre de la manière dont urine la mule, en s'abaissant, que pour préserver sa pudeur, la femme doit s'asseoir pour uriner. En tout cas, nous voyons de là que c'est une bonne chose. Puis, lorsque le pasouk dit « Umeof hashamaim yechakemenu », nous pouvons apprendre la sagesse des oiseaux du ciel. « Zetarnegol shemefayes vachakar boel ». Ce passage fait allusion au coq qui amadou la poule et seulement après s'accouple avec elle. C'est-à-dire, de la manière d'agir du coq avant son accouplement, comme nous le verrons par la suite, nous apprenons que la manière correcte d'agir pour un homme est d'abord d'amadouer sa femme avant d'avoir avec elle un rapport intime. Amar Rabbi Yochanan, il m'allait l'onitna Torah. Si la Torah, avec ses lois, n'avait pas été donnée au clan Israël, haïnu le medim tzniut mechatul, on aurait pu apprendre la pudeur du chat, qui est discret lorsqu'il fait ses besoins et il les recouvre ensuite, de gezel minemala, nous aurions appris aussi l'interdiction de voler de la fourmi, qui, comme le dit le pasouk dans Mishlevav, elle amasse de la nourriture en été, et aucune fourmi ne prend ce qui appartient à une autre. De arayot miona, on aurait appris aussi l'interdiction de l'adultère de la colombe, qui ne s'accouple qu'avec son compagnon. De recheretz mitarnegol, et nous aurions appris aussi la politesse et la manière correcte d'agir du coq, shemepayez vachakar boel, qui amadou la poule, puis ensuite s'accouple avec elle. La Gemara demande, umay mefayez la, comment est-ce que le coq amadou la poule? La Gemara répond, amar rav Yehuda, amar rav, hachika amar la, c'est cela que le coq veut lui dire à la poule, lorsqu'il tourne autour d'elle avant l'accouplement, en étendant ses ailes vers le sol. Je vais t'acheter un habit qui t'arrivera jusqu'au parterre. Le batarachi, après l'accouplement, lorsqu'il secoue sa tête, Amarla, c'est cela qu'il veut lui dire. L'ishmatete le karbalte de autarnegola, que la crête de ce coq soit arrachée, itle velozabinnaler, s'il possède de quoi acheter cet habit, et que je ne te l'achète pas. Autrement dit, il s'excuse qu'il n'a pas les moyens de le faire. En fait, comme l'explique le Torah Traïm, la poule n'a pas besoin d'habit, mais ce que la Gemara veut dire, c'est qu'Hachem a fait en sorte que le coq agisse de cette manière pour que l'homme apprenne comment il faut agir en traduisant ses actions de cette manière. Nous apprenons donc de là qu'un homme doit impérativement amadouer sa femme avant de s'unir avec elle, même si pour ce faire, il doit lui faire une promesse qu'il n'a pas les moyens de remplir, puis après, il s'excusera qu'en fait, il avait réellement l'intention de le faire, mais il n'a pas les moyens. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Eruvin Daf Kouf.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.